Yes, help yourself. That's very nice.
Bien, merci à tous d'être présents. Nous avons aujourd'hui la table ronde des politiques d'at-large, données du titulaire de nom de domaine, règles existantes, règles futures, lundi 23 juin de 10h30 à 11h30 ou 12h30. Il y a une erreur dans le programme. Nous allons essayer d'avoir donc les diapositives pour que vous puissiez les voir. Mais nous allons principalement parler, c'est ce que j'ai expliqué sur donc les diapositives que vous allez voir. Donc, je voudrais voir les diapos sur l'Adobe Connect. Bien, parfait. Donc, est-ce que je peux contrôler les diapos? The Holy Reich. Je vais vous aider, dit Ariane Lang. Bien, si vous voulez, dit Holy Reich, si vous voulez participer à ce groupe, nous allons parler donc des problèmes d'enregistrement fiduciaire. Et dans la prochaine diapo, vous allez voir, je vais vous faire un petit topo hein, pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Nous avons la chance d'avoir ici plusieurs personnes qui ont différentes perspectives sur ce problème. James a l'air surpris, mais il va nous donner sa propre vision des problèmes donc d'enregistrement fiduciaire et de protection de la vie privée. Et Grant Benton va aussi nous en parler de la partie des parties contractantes, hein, c'est ça? Bien, à ma droite se trouve Stephanie Perm, qui appartient aussi à ce groupe de travail sur donc les groupes de travail d'experts. Hein. Elle appartient au groupe donc, qui travaille sur ce problème. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi ce problème, regardez ma présentation qui devrait être sur Adobe Connect et qui devrait être devant vous. Donc, notre ordre du jour commence par tout ce qui concerne donc le service d'enregistrement fiduciaire, les services WHOIS. Et vous allez voir, c'est le groupe donc, de travail d'experts qui aborde ce type de problème. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, à propos du groupe de travail d'experts, non, ce n'est pas ce que je veux. Hein. Où sont mes diapositives? Il y a un problème de... les diapositives du groupe de travail d'experts sont pour la prochaine partie de la réunion. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi il s'agit, je pensais que s'ils voulaient savoir de quoi on parlait, il fallait leur faire une petite présentation. Donc, c'est ce que j'ai préparé. Voilà. Si Ariel peut trouver ses diapositives. OK, c'est bon. Bien. Je vais parler sans diapo en espérant que mes diapos vont être retrouvés. Le problème des serveurs donc d'enregistrement fiduciaire ont commencé il y a quelques années, ou services proxy, hein, ont commencé il y a quelques années. Et bonjour, Carlton. En termes de... Pour ce type de service, il y a de nombreuses années, lorsque l'Internet était populaire, pour trouver la personne à qui on parlait, il y avait une... Il y avait des standards qui impliquaient que les gens devaient s'identifier. C'était construit, cela appartenait aux prérequis qui sont aujourd'hui dans l'accord d'enregistrement des bureaux d'enregistrement. En termes d'informations concernant les titulaires de registres qui doivent être disponibles et qui doivent être disponibles pour le public, de manière publique, ce qui a un sens, hein, et de plus en plus, parce que nous parlons d'un groupe de gens de plus en plus nombreux et qui, certains, hein, ne veulent pas que leurs coordonnées personnelles soient rendues publiques. Ils ont le droit de ne pas avoir donc leurs informations personnelles publiées. Et donc, nous avons un prérequis au sein de l'accord d'enregistrement pour avoir certaines informations à la disposition du public. Ça s'appelle les informations WHOIS. Et nous avons certaines règles fondamentales concernant la protection de la vie privée en Europe et certaines en fonction des différents pays, cela change. Et donc, cela nous mène à la discussion qui a eu lieu suite à... En 2013, dans la modification du RAA, de l'accord d'enregistrement, d'accord d'accréditation, pardon, il y a eu donc un rapport. Regardez ce que disent les diapos, hein. Donc, en 2013, l'agence d'application de la loi a été très insisté beaucoup sur leur besoin d'accéder aux informations personnelles, aux coordonnées des titulaires de registres particuliers. Et le résultat de cela, le résultat de leur demande, hein, a été donc l'amendement qui a été fait en 2013 à l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement. Et ce qui est arrivé aussi est qu'il y avait, il y a eu une équipe de révision des politiques WHOIS qui, dans son rapport en 2012, a présenté plusieurs points. D'abord, qu'il y avait donc des personnes qui utilisaient ces services donc proxy ou d'enregistrement fiduciaire, des personnes individuelles, des organisations, des compagnies qui donc l'idée était que les gens qui voulaient utiliser ces services proxy pour se protéger de la vision du public, hein, et les données d'enregistrement donc de cette... À l'origine, on a compris pourquoi les gens voulaient utiliser ces serveurs de protection de la vie privée et ces serveurs d'enregistrement fiduciaire. Mais il y a plusieurs utilisations problématiques de ces serveurs d'enregistrement fiduciaire. Certains sont les gens, par exemple, qui ont des... qui participent à des délits ou qui participent à des utilisations malhonnêtes de l'Internet d'une façon ou d'une autre. Et par conséquent, il devrait y avoir des informations ou une capacité de pouvoir contacter ces gens-là ou d'avoir des données personnelles de ces gens-là. Je m'excuse de revenir là-dessus, mais je pense que c'est important de vous donner une petite idée, un petit panorama général. Donc, les prérequis dans l'accord d'accréditation 2013 étaient essentiellement qu'il fallait donc que les bureaux d'enregistrement soient en accord et donc correspondent avec les spécifications adoptées par ICANN. Donc, on a présenté des spécifications qui faisaient partie des changements qui ont été faits dans l'accord d'accréditation 2013, qui vont établir des règles pour les services d'enregistrement fiduciaire. Jusqu'à cette époque-là, le programme d'accréditation des proxys était établi et je ne comprends pas vraiment pourquoi c'était seulement pour les services de proxy, mais nous n'allons pas nous intéresser à cela. En tout cas, dans le cadre des spécifications, au cas où vous seriez intéressé, il y a des définitions concernant ce que sont ces services donc d'anonymisation et qu'est-ce que sont les services d'enregistrement fiduciaire ou services de vie privée, de protection de la vie privée et services proxy. Donc, ce sont des termes avec leur définition. Ici, vous avez donc la définition de chaque chose. Il s'agit donc de services qui sont fournis. Voilà. Ici, vous voyez les spécifications qui appartiennent donc à l'accord d'accréditation, qui seront contraignantes et qui feront partie de l'accord d'accréditation 2013. C'est un document assez simple avec des prérequis de base. Le premier est que les bureaux d'enregistrement doivent être doivent respecter les spécifications, que les termes de service doivent être publiés. Il doit y avoir des points de contact pour les troisièmes parties ou pour les tierces parties, quelqu'un qui donc puisse fournir des informations nécessaires 24 heures sur 24 pendant tous les jours de l'année. Il doit y avoir un point de contact pour une tierce partie, donc, qui veuille rapporter un abus ou une violation de la loi. Et il faut y avoir une description du processus et disponible, donc, et pour en cas d'abus ou autre. Voilà, c'est ce que nous avons pour le moment. Alors, ce que la GNSO a fait en novembre 2013 était d'établir un groupe de travail pour développer et dans le détail des règles concernant les spécifications pour ces services proxy et ces services donc d'anonymisation, en commençant par, je ne vais pas vous citer ici tous les termes de référence parce qu'il y en a 20 et quelques, mais le groupe de travail a identifié des catégories de problèmes qui surgissent du développement de certaines spécifications. Nous avons donc les principaux problèmes. Ensuite, nous avons la maintenance des services proxy et des services d'anonymisation, ce que cela signifie, comment le titulaire doit être enregistré, quels sont les points de contact ou les coordonnées à fournir pour ce type de service proxy et ce service donc d'anonymisation, les données qui doivent être fournies concernant le titulaire. Ensuite, ce qu'il se passe en cas de l'accréditation d'un service donc d'anonymisation d'un service proxy quand quelque chose a lieu, quand quelque chose ne fonctionne pas bien, quand il y a un problème. Voilà. Prochaine diapo. Donc ici, il y a un petit problème dans l'ordre des diapos. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, le groupe de travail, en avril 2014, a présenté un document pour les commentaires d'Alac, un document destiné donc aux commentaires d'Alac. Et je crois que j'avais dit quels étaient les problèmes ici. Voilà. Donc, prochaine diapo. Ah, je n'ai pas donc cité les problèmes. Bon, tant pis. En 2014, donc, il y a eu un document qui a été donc diffusé par le groupe de travail qui demandait des commentaires et le comité donc consultatif a fait des commentaires et le résumé de ce que ALAC a pensé était que les prérequis pour les services d'enregistrement fiduciaire et d'anonymisation devraient être appliqués à tous les fournisseurs, qu'il y avait un problème concernant la vérification des coordonnées des titulaires de, donc, qui allaient utiliser ces services proxy et d'anonymisation et quels allaient être les prérequis concernant la vérification de ces données à la pensée et donc que ces prérequis pour la vérification des coordonnées des titulaires devaient être les mêmes que ceux qui étaient inclus dans l'accord d'accréditation de 2013. On a aussi besoin d'avoir un équilibre entre les droits légitimes des individus et des organisations à la vie privée et aussi les droits des donc services d'ordre et autres pour donc avoir des informations concernant les coordonnées de ces différentes personnes et pour pourquoi donc les services de l'ordre et autres veulent avoir accès à ces informations. Bien. Nous avons le groupe de travail a passé beaucoup de temps à travailler sur les coordonnées, sur ce qui devait être dans ces spécifications concernant les coordonnées. Donc, nous avons atteint un accord provisoire, hein, je dirais provisoire parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire en tant que groupe de travail. Nous n'avons pas encore atteint un accord final. Nous avons atteint un accord provisoire en ce qui concerne le traitement pour l'accréditation des fournisseurs pour donc les services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, pour l'enregistrement des noms de domaine concernant donc les fournisseurs de ce type de service. Je vais vous dire, ce que je voudrais faire, c'est au lieu de regarder ces diapos. Il y a des points sur lesquels nous sommes arrivés à un accord et un accord majoritaire du groupe de travail. Donc, la plupart d'entre nous, nous sommes arrivés à un accord concernant les fournisseurs de ce type de service qui devait être ouvert aux que ce soit commerciaux ou même commerciaux, ils devaient avoir les mêmes bases de coordonnées, fournir le même type de coordonnées. Ils devaient tous donc dépendre de services accrédités. Le bureau d'enregistrement devait fournir un lien web aux services donc proxy et d'anonymisation. Et dans le cadre donc de l'accord d'accréditation 2013, hein, les vérifications et la vérification pour les informations du titulaire devaient être les mêmes. Il y a beaucoup de questions qui sont encore en cours d'analyse. Les principales, et je suis sûre que les personnes ici autour de la table vont avoir rencontré d'autres problèmes, mais en voici certains. Nous devons travailler sur ce que nous considérons comme l'accréditation. Il faudra travailler sur les tests à utiliser, quel type d'accord, quel type d'organisation nous devons faire en ce qui concerne la conformité des données, les prérequis concernant la capacité de réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? S'il y a une demande pour davantage d'informations auprès du titulaire pour un service d'enregistrement fiduciaire ou d'anonymisation, qu'est-ce qu'ils doivent nous fournir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire et dans quel délai, hein? Et de nouveau, ça peut être différent en ce qui concerne les services de la loi et d'autres. En ce qui concerne la préservation de l'anonymat dans ce processus de transfert, nous sommes en train de voir comment ça fonctionne parce qu'il y a des problèmes à ce niveau, hein? Donc, je n'ai plus de diapos. Dites-moi si j'ai d'autres diapos à présenter. Non, sinon nous allons donner la parole aux personnes qui sont dans la salle et qui appartenaient à ce groupe de travail. Bien. Ce que je vais faire, c'est je vais vous dire que dans le groupe de travail, il y a des personnes qui sont ici et qui voudraient fournir leur propre approche, leur propre perspective. Et nous voudrions aussi entendre toutes les personnes qui sont dans la salle, entendre vos questions en termes d'objectifs, de considérations que vous avez, de problèmes que vous avez rencontrés en ce qui concerne les services d'enregistrement fiduciaire et les services d'anonymisation. Les personnes qui sont membres du groupe de travail, s'il vous plaît, levez la main. Nous avons travaillé beaucoup ensemble, hein, Steve. Donc, dans la communauté AP, James Blader. J'ai ici des personnes qui me donnent deux prononciations différentes. Donc, Blader, James Blader. OK, on va vous appeler James. McKelly. Pour le moment, jusqu'à ce qu'on parle du groupe de travail d'experts, nous n'allons pas vous donner la parole. Michele prendra la parole ensuite. Crime Vanton, qui appartient aussi à ce groupe de travail. Stéphanie n'est pas dans ce groupe, mais elle aimerait beaucoup y être. Elle y est? Oui, elle est liée. Ah, elle est là. Oui, Stéphanie est ici. Cathy? Et Stéphanie prendra la parole. Oui, Cathy aussi est là. Donc, je pense que je vais commencer par les dames d'abord. Et si vous voulez nous dire quelles sont vos préoccupations, hein, si vous voulez, nous allons faire un tour de table. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et bien que je vois qu'il y a quand même pas mal de temps après ce groupe de travail et nous avons un espace sans activité. Hein. Mais bon, vous allez nous dire, Cathy, d'où vous venez, quelles sont vos activités. Miguel est la même chose, James et Steve la même chose. Et Stéphanie aussi. Bon, vous avez 2 minutes, hein, parce que sinon Carlton va me gronder. Cathy, vous avez la parole. Bien, je voudrais d'abord remercier Ali et Carlton qui ont organisé cette réunion et ELAC pour nous avoir permis de participer à cette discussion. Et je veux remercier aussi Holly pour l'introduction. Merci beaucoup. Bien, alors, beaucoup de gens me connaissent. Je viens de l'unité constitutive de groupe non commercial. Je suis spécialisée en nom de domaine, donc liberté d'expression et marque et confidentialité ou vie privée. Lorsque j'étais avec vous à Singapour, nous avons parlé de points de départ pour donc le groupe d'accréditation du service d'enregistrement fiduciaire et d'anonymisation. Le point de départ pour une organisation non commerciale, selon la perspective des utilisateurs non commerciaux, c'est que l'Internet a aujourd'hui des centaines de millions d'enregistrants, de titulaires de noms de domaine. Les personnes utilisent ces noms de domaine pour exprimer leur vision sociale, politique, et ils ont des discussions pour la communauté, pour le pays, etc. Et donc, ce dialogue est incroyable. Et c'est justement un des aspects et tout à fait positifs de l'Internet, ce que l'Internet permet de faire, hein, des discussions locales, internationales et donc des gens qui peuvent débattre de ces différents thèmes. Donc, du point de vue de la perspective donc, de cette anonymisation et de notre enregistrement fiduciaire, nous devons trouver un système qui donne une certaine valeur aux orateurs et pas vraiment trouver les gens, valoriser les orateurs. Traditionnellement, nous avons valorisé le contenu plus que l'orateur et c'est ce que propose la Cour suprême et les Nations unies. Hein, on a le droit de parler de manière anonyme. Donc, l'orateur n'a pas besoin d'être en avant. Hein. Il n'est pas obligatoirement quelqu'un de connu, il peut l'être, hein, mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Donc, cela est intéressant. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ces gens pourraient être persécutés pour ce qu'ils disent. Et donc, le deuxième point, on parle donc de la divulgation de l'identité. Et pour cela, il faut un processus qui puisse être suivi. Si vous avez fait quelque chose d'illégal, hein, pour justement ces services d'enregistrement fiduciaire doivent appartenir à tout le monde, hein, parce qu'il y a des utilisateurs qui doivent utiliser ces services, hein, et donc il faut qu'il y ait un consensus. Et le troisième point, si l'on va, hein, dont on a parlé la dernière fois, si l'on crée certains systèmes pour remédier les problèmes, hein, il faut donc parler du contenu plus que de la révélation des personnes qui ont eu un certain discours. Donc, je dois dire qu'on fait un bon travail dans ce groupe de travail. On a fait beaucoup, on a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, hein, à ces questions d'enregistrement fiduciaire et d'anonymisation. On a... On m'a demandé de parler plus lentement. Bien. Donc, nous travaillons et nous essayons de tenir compte des principes que j'ai déjà abordés lors de la discussion précédente et que je n'ai pas répété. Voilà. Donc, merci. Merci, Cathy. Et Stéphanie Perrin, maintenant, qui est aussi un membre de notre équipe. Bien, merci. Et je participe à ce groupe de travail et à cette réunion parce que Michele m'a convaincue de le faire. Michele est mon collègue dans ce groupe d'experts et ça a été un travail tout à fait intéressant. Essayer de comprendre quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre au niveau, donc sur le terrain, et voir un petit peu quelles méthodes utiliser le groupe de travail d'experts. Donc, je parlerai du groupe d'experts tout à l'heure. Donc, pour le moment, je vais vous dire que c'est une expérience fascinante et qu'il faut souligner que beaucoup de ce qui va se faire dans le futur va dépendre de la divulgation de la disponibilité des services proxy et des services d'anonymisation qui vont exister, non, qui vont être à la disposition des gens. Et donc, nous sommes arrivés à certaines conclusions sur ces questions clés au sein de notre groupe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Stéphanie. Maintenant, Graham Bunton. Merci beaucoup, Holly. Donc, je suis Graham. Je travaille pour un bureau d'enregistrement et nous offrons un service proxy et d'anonymisation assez important. Mon vice-co-président de ce groupe de travail, donc d'enregistrement fiduciaire et d'anonymisation, co-vice-président, dit-il, ou vice-co-président, voyons quel est le terme à utiliser. Ce n'est pas, je ne sais pas, mais bon, peu importe, en tout cas. Merci, James. Nous avons eu une discussion la nuit dernière sur l'évolution de notre groupe de travail. Nous avons présenté un document pour la session donc d'aujourd'hui que vous avez, Holly. Très bien, parfait. Est-ce que nous l'avons publié? Est-ce qu'il est disponible en ligne? Bien. Donc, c'est quelque chose que j'encouragerai tout le monde à lire parce que ça montre que jusqu'à maintenant, nous avons un groupe qui a eu pas mal de hauts et de bas, à certains désaccords, mais nous avançons quand même relativement bien et nous avons fait de grands progrès, donc je dirais. Hein. Voilà, donc ça va être une bonne occasion aujourd'hui d'entendre ce que les gens pensent de ces services d'enregistrement fiduciaire et d'anonymisation et d'autres visions aussi que nous n'avons pas entendues dans notre groupe du travail. Voilà. Et de nouveau, je remercie les personnes du groupe de travail qui nous ont aidés et jusqu'à maintenant. Merci, Graham. Michele, vous avez la parole. Michele, j'essaye de trouver un micro qui parle. Michele Nalen pour la transcription. Et avec une série d'autres personnes qui sont autour de cette table, je participe à certains niveaux à ce groupe de travail d'enregistrement fiduciaire d'anonymisation, groupe d'experts aussi, hein, qui a travaillé avec le groupe d'experts, au sein duquel nous avons essayé de résoudre une série de problèmes importants dans le contexte de l'ICANN. Des problèmes qui existaient depuis longtemps en plus. Hein. Donc on peut parler longtemps, hein, sur tous ces problèmes, mais j'aimerais entendre ce que pensent les gens dans la salle et leur donner un peu plus de temps. Donc, je vais me taire maintenant. Bien. Parfait. James, maintenant, vous avez la parole. Bien, merci. James Baikoff, Merci à l'AC de nous avoir invités, de nous avoir donné l'occasion ici de parler donc du groupe de notre groupe de travail. Je travaille pour GoDaddy. Nous avons aussi un service donc d'enregistrement fiduciaire et d'anonymisation. Et donc j'ai une blague que j'aime bien raconter dans les réunions d'ICANN. Hein, c'est un petit peu si on prend quelqu'un qui rentre dans ICANN et on va lui demander comment il veut réparer ou arranger Whois, et il peut avoir de très bonnes idées. Moi, je faisais la même chose il y a quelques années. Hein, et puis ensuite, il a fallu que je reconnaisse que c'est un problème très, très, très complexe et que c'est un thème très compliqué et que la question du Whois est liée aussi à la question de l'enregistrement fiduciaire et à la question de l'anonymisation. Et j'ai appartenu à un groupe de travail qui a analysé ces problèmes. Nous avons eu des discussions enflammées pendant longtemps qui ont donné lieu à un rapport final sur ce point-là. Je dirais que ces services existent, c'est important, et ils sont connus au sein de l'ICANN. Il y a une perspective selon laquelle ce sont des services qui ne posent que des problèmes, hein, mais il faut reconnaître qu'il y a des milliers de clients qui utilisent ce type de service, et ma compagnie est affiliée aussi à ce type de service et utilise ces services. Ils sont très importants pour nous tous. Il y a donc des controverses, hein. On demande un numéro de téléphone, on demande une adresse d'email, mais je pense que c'est important tout cela. J'ai aussi participé aux négociations avec donc les spécifications temporaires. J'ai écrit à propos de ces spécifications moi-même. Donc, si vous voulez, dites-le. Si vous avez des choses à dire, à critiquer, dites-le ici. Hein. Je pense que le personnel d'ICANN a fait un très bon travail, mais il y a un problème au niveau de la négociation. Hein. Il y a ce programme d'accréditation avec les bureaux d'enregistrement qui ont dit ça suffit, il faut que ce soit fait, il faut faire un PDP, il faut passer par d'une façon ou d'une autre, il faut le faire. Et donc, toutes les semaines, lorsqu'on a besoin de parler de ces problèmes, il faut se souvenir que cela aurait pu être hein, quelque chose qu'on aurait une case à marquer dans un contrat, hein, et quelque chose qui aurait pu être très simple. Mais nous avons voulu avoir une discussion transparente au niveau de la communauté pour voir quelles étaient les meilleures manières de résoudre ce problème. Et donc, nous avons investi du travail des gens hein, pour fournir ce service, pour être répondant à tous les problèmes qui surgissent. Je pense que nous avons ici la possibilité de travailler avec tout le secteur et avec les fournisseurs en général. Et nous sommes heureux donc d'avoir l'occasion aujourd'hui de dialoguer avec eux. Voilà. Ça a été un groupe de travail qui a fait du très bon travail. Et un groupe de travail qui a réussi à faire avancer pendant ces dernières semaines, et je pense que c'est une bonne chose.
Allez, Reich, merci, James. Il faut dire que lorsqu'il est arrivé à dire nous voici réunis pour le groupe de travail, il faut qu'on ait un résultat avant 2017, je pensais que c'était une blague. Je me suis dit 2017 ? Il manque tellement de temps. Mais en fait, maintenant que j'ai participé au groupe de travail, ce n'est pas suffisamment de temps. Il reprend la parole. En fait, temporaire, ça devient permanent au sein de l'ICANN. Et donc, on voulait spécifiquement parler d'une date d'échéance qui nous permette du temps. Donc, avant janvier 2017, c'est ça qu'on va mettre sur la spécification. Oli Reich, merci. Et maintenant, on a Steve Metalitz, qui est notre autre membre du groupe. Steve Metalitz prend la parole. Merci. Je fais partie de l'unité constitutive de la propriété intellectuelle. Je fais partie de l'industrie des logiciels, des jeux vidéo. Je fais des affaires en ligne. Et je dépends aussi du WIS comme un élément clé de la responsabilité et la transparence en ligne. Et je voudrais remercier l'ALAC de trois faits. D'une part, de m'avoir invité, puis de l'introduction de Holly, qui nous aide à mettre cela dans le contexte. Et finalement, parce que je vois que vous êtes intéressé à vous engager, à participer à ce sujet. Parce que ce n'est pas simplement quelque chose qu'on fait pour l'amour de l'art. C'est la troisième fois que j'ai participé à ce groupe et donc je vous remercie de continuer de travailler sur ces questions et de vos contributions à la discussion jusqu'à présent. Je pense que votre interaction nous aide à mettre dans le contexte le système qu'on a en ce moment, à l'heure actuelle, et certainement avant les spécifications temporelles, sur laquelle on dirait que Louise était là pour fournir la transparence et la responsabilité nécessaires pour que les gens sachent avec qui ils communiquent en ligne et qui respectent l'état de droit et d'autres règles importantes en ligne aussi. Et en fait, nos enregistrements GTLD sont presque plutôt des questions de confidentialité. Donc on a du mal parce qu'il n'y a pas de règles ou de compréhension commune des circonstances sur lesquelles ces enregistrements par enregistrement fiduciaire peuvent être atteintes par les personnes et comment les gens peuvent les contacter. Donc c'est ça le problème auquel on doit faire face et je pense que James a raison qu'il faut et la question sur la divulgation des règles des gens qui font partie de ce secteur en ce moment doivent appliquer ces règles, ce qui n'est pas simple, mais l'idée serait d'appliquer les mêmes règles à tout le monde. Et c'est un propos du, c'est un problème du processus d'accréditation. Je pense qu'on a fait de bons progrès dans le groupe de travail. Et certaines des questions les plus difficiles que j'ai eu à répondre venaient de ce groupe. Mais je pense que je dirais cela. J'apprécie la participation de toutes les personnes qui ont déjà participé à ce groupe de travail. C'est grâce à eux qu'on peut avancer. Merci. Olli Reich, merci Steve. J'allais maintenant permettre au groupe de travail de passer à la deuxième étape. J'ai discuté avec M. Costello hier, qui m'a dit que pour l'application de la loi, il dit que c'est la huitième ou neuvième chose la plus importante. Donc je pense que les LEA peuvent accéder aux informations nécessaires, mais je n'avais jamais entendu dire cela avant. Donc peut-être, comme on a dit, on pourrait intégrer d'autres personnes au groupe de travail pour voir si c'est vrai ou pas ce qu'ils disent et conclure le débat. Par la suite, je voudrais que le public commence à considérer les problématiques que je propose là pour parler d'accréditation, qui est accrédité, avec quelle fréquence, de quoi on parle lorsqu'on parle de vérification. Ce sont les questions que nous tous, dans le groupe de travail, devons aborder. On voudrait savoir quel est votre avis. Alors, on va passer à Michaela Nyland d'abord et puis tout le monde. Michaela Nyland, merci, Holly. Pour être bref, je voudrais demander si l'application de, par rapport à l'application de la loi, est-ce qu'on devrait ou pas appliquer l'enregistrement fiduciaire. Pendant nos négociations pour l'ERA 2013, l'application de la loi s'est engagée et on a pu discuter avec eux pour éclaircir qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils sont ici même. Ils vont participer à la réunion cette semaine. Ils sont très nombreux, d'ailleurs. Il y a plein de personnes du FBI et des équivalents européens, des politiques européennes. Et si vous voulez aller les voir, ils sont là. Et ils ont accès à beaucoup d'informations qui pourraient nous partager, ou au moins notre agence d'application de la loi pourrait nous les donner en échange d'autres aspects. Je ne peux pas leur donner ce que je n'ai pas et c'est ce qu'ils me demandent toujours. Mais ils peuvent très bien venir discuter avec nous. Et donc je pense que ce serait une bonne idée de les inviter formellement à le faire. Olli Reich, merci. Michele, notre première personne dans la queue, Stéphanie Perrin. Cela nous donnera une idée de ce qu'est le débat dans le groupe d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire. Je sais que je vous donne des mots de tête, Michele le sait d'ailleurs, mais l'application de la loi inclut aussi l'application des lois de protection de données. Et les gens des agences d'application de la loi qui sont ici à l'ICANN de façon régulière sont des commissionnaires, des commissaires, d'application de la loi de façon permanente. Je n'ai pas pu intégrer ces personnes aux discussions d'application de la loi, mais ils devraient sans doute être représentés. Allez, si quelqu'un d'autre à la table et dans le public a des questions, Garth pourrait les répondre. Garth Brown, j'ai vu à la CAN quand 343 autres personnes sont venues ici pour l'enregistrement. Ils sont entrés. Vous voyez, c'est facile de venir participer. C'est ça ce que je veux dire. Et si les autorités n'ont pas participé, je voudrais savoir pourquoi elles ne l'ont pas fait. Particulièrement, étant donné qu'on est en Europe, je pense que c'est beaucoup plus simple de les engager. Allez, Raïch, on va faire le tour de la table. Alors, Garth. Oui, Garth Brown, président de Naralo. Oui, vous savez que je vous adore. Mais il faut que je vous corrige, de toute façon. Et ce n'est pas simplement pour vous corriger, mais c'est parce que c'est un détail très important sur l'histoire du WIS. C'est une erreur de compréhension qui, en fait, mène à beaucoup de discussions qui sont mal proposées. Les gens n'avaient pas à s'identifier eux-mêmes, même dans les premiers réseaux. La description explicite ou l'exigence explicite était que si quelqu'un était un hôte qui passait du trafic ou des contenus sur ARPANET, devait s'identifier. Une personne qui faisait partie d'un réseau local de l'UCLA, par exemple. Un réseau local, ça dépendait de l'administrateur du réseau local, si vous vous identifiez ou pas. Si vous utilisiez le hôte, c'était le hôte qui était l'identificateur. C'était eux qui devaient avoir des informations de contact, des coordonnées précises. C'était ça, l'exigence. Alors, cette idée que les personnes qui utilisent Internet doivent s'identifier est incorrecte, complètement incorrecte. C'est exclusivement quelqu'un qui est un hôte qui doit s'identifier. Donc, si on va commencer la discussion, il faut qu'on le fasse à partir de ce point-là. Merci. Je t'adore aussi, Garth, dit Holly. C'est bon. Mathieu Camus, Internet Society France.
If it's okay with the translation.
Si c'est bon, je vais parler en français.
Channel, please.
Donc, Mathieu Camus, je suis ici donc en tant que membre at large Internet Society France, mais c'est mon activité donc à titre bénévole et je travaille donc pour l'autorité de protection des données française. Mais je suis un technicien et pas du tout un expert juridique. Donc l'autorité française fait partie du groupe européen des autorités de protection des données G29 et depuis plus d'un an il y a des discussions sur les contrats et notamment vers le RAA donc 2013 et il y a deux points qui posent problème concernant la durée de conservation des données. Donc pour des aspects légaux, notamment en Europe, on s'attache à ce que la conservation des données soit justifiée par une finalité. Et donc lorsque la finalité est légale, donc cette durée de conservation est réellement justifiée. Et c'est pour cette raison qu'on demande des procédures d'exemption, parce qu'on considère que par défaut, les données sont conservées trop longtemps après la rupture du contrat, deux années par défaut. Et donc le groupe G29, le groupe des autorités européennes de protection des données, demande à ce que cette durée de conservation soit limitée à une année maximale. Et il faudrait à chaque fois, donc pour chaque demande de contrat, il faudrait faire également une demande d'exemption. Donc la demande du groupe G29 à l'échelle européenne, c'est d'avoir une reconnaissance d'une homogénéité des aspects légaux sur le plan régional, et qu'il puisse y avoir des facilités de demande d'exemption, parce que chaque demande individuelle d'exemption est un processus très long et qui est très coûteux. Voilà. Donc c'est une préoccupation qui est encore en cours de discussion à l'heure actuelle. Voilà. Et j'aimerais en débattre avec vous. Merci.
Je voudrais donner un moment à Carlton pour parler du EWG, pourquoi les gens devraient participer, dit Holly Reich. Soyez bref, s'il vous plaît. Cassie, vous voulez prendre la parole? Je suis un bureau d'enregistrement du Maroc. C'est une personne non identifiée qui prend la parole. Je voudrais savoir, concernant l'enregistrement fiduciaire de WIZ, je veux dire qu'au Maroc, les agences d'application de la loi ne considèrent pas cela important. Lorsqu'ils nous connaissent en tant que bureau d'enregistrement, ils nous envoient tout simplement une notification dans nos bureaux pour nous demander d'aller voir la police pour qu'on leur donne les données qu'ils veulent. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de décision injuste pour leur donner quoi que ce soit. Si on leur donne pas les données qu'ils veulent, je serai pas là. Et donc, pour nous, ce serait mieux d'avoir des séances, d'avoir des données pour protéger nos utilisateurs et nos titulaires de nos domaines. Holly Reich, Neil. Neil Schwartzman. Je travaille sur le domaine de l'abus depuis plus longtemps que certaines personnes utilisent l'Internet, et je travaille avec des filtres. En tant que professionnel et bénévole individuel pour protéger les personnes réelles de l'abus réel tous les jours, je vous assure que qui que ce soit qui a cité Dave Cotello n'a pas bien donné sa citation. Je vous donnerai un exemple. Sur yahoo.fr, cherchez Captain Beats. Cherchez-le sur Google. Une adresse permet de faire des abus sur Internet pour beaucoup de noms de domaine. C'est un fait très simple. Et je n'ai pas la capacité de faire le blocage et la protection d'utilisateurs tous les jours de l'hameçonnage malicieux. Ce sont des cas réels. Ce n'est pas simplement l'application de la loi. Je n'ai pas la possibilité de pouvoir laisser passer cela. J'ai la capacité de faire des recherches, et chaque abus sur les chercheurs sur Internet se sert de façon constante de ces procédures. Donc, trois bureaux d'enregistrement avec des intérêts financiers pour maintenir et élargir les services d'enregistrement fiduciaire pour doubler les profits tous les jours pour les titulaires des noms de domaine qui s'en servent. Je comprends que vous le voulez, mais Cela ne nous aide pas. GoDaddy est un des acteurs qu'on aime. Donc je veux travailler sur la régulation avec votre équipe. C'est très bien de vouloir cela, mais de toute façon, cela n'empêche pas les autres abus. Il y a des personnes qui ignorent les essais pour avoir des informations, pour combattre l'abus. Et c'est un problème. Holly Reich, merci. Alan, maintenant. Alan Greenberg, je levais la main depuis un bon moment et j'allais dire quelque chose que Steve Metallis a déjà mentionné. Et ce n'est pas facile de comprendre pourquoi les réponses pour la protection de données des personnes ne sont pas mentionnées ici. C'est l'une des sources principales d'enfreintes à la confidentialité et de vol d'identité sur Internet. Et je dirais qu'il s'agit d'une discussion facile, simple, que ce serait simple de dire qu'on devrait les intégrer à ces discussions, que tout le monde serait d'accord. Mais je voudrais comprendre pourquoi ils ne considèrent pas cela comme une responsabilité qu'ils ont. Holly Reich. Oui, monsieur, donnez votre nom, s'il vous plaît, d'abord, et puis vous pouvez parler. Je suis Mary McCutcher. Je suis membre de Naralo. Et j'étais présent lors de la réunion d'application de la loi de ce matin, qui était pleine de monde. Il n'y avait pas de place dans la salle. Mais je voulais dire qu'il faudrait aussi qu'on les contacte. Ils sont peut-être ici, mais ils ne savent pas qu'on est là. Donc, on devrait peut-être participer à leur séance en même temps. J'ai beaucoup appris ce matin. Holly Reich. Merci, Mary. Maintenant, on a Victoria et on va devoir s'arrêter. Alors, Victoria et puis Stephanie. Et puis, on va s'arrêter. Je voudrais que Carlton parle du groupe de travail d'experts. Alors, on a Vittorio Bertolo de ISOC Italie. Je m'excuse parce que j'ai beaucoup participé jusqu'à il y a 5 ans et puis je n'ai plus participé ces dernières années. Peut-être que j'aurais dû faire ces commentaires avant d'arriver à ce point-là. Et c'est ma faute et je m'excuse. Mais de toute façon, je vois qu'il y a une question fondamentale dans la façon dont on propose ce problème. L'idée d'avoir un proxy d'anonymisation, au moins pour nous en Europe, ce n'est pas un service qu'il faut payer, pour lequel il faut payer. C'est un droit fondamental, c'est un droit qu'on devrait avoir, un service par défaut. C'est pas qu'il faut dépenser pour avoir ce service. Et je comprends l'idée d'un proxy ou d'un service d'enregistrement fiduciaire pour les compagnies, pour les sociétés. Pourquoi donc devrait-on avoir différentes règles pour les sociétés et pour les personnes, pour les individus? Pourquoi ce ne serait pas suffisant pour les individus? Ce n'est pas une solution pour le problème de l'anonymisation et de l'enregistrement fiduciaire, au moins pour les Européens et leurs lois. C'est simplement un moyen pour leur faire payer de plus. Mais ce n'est pas une solution au problème de l'anonymisation. Et en même temps, j'ai un problème avec cette discussion concernant la légitimité ou l'illégitimité des utilisateurs de services d'anonymisation. L'anonymisation, c'est un droit pour nous, donc ce ne pourrait pas être légitime. C'est comme dire que ma liberté d'aller, venir, sortir peut être légitime ou illégitime selon où je veux aller ou si je vais commettre un délit et qu'il faut que je déclare où je vais à chaque fois que je veux sortir et qu'il faut que quelqu'un vérifie si je peux sortir de cette salle pour aller dans l'autre. Holly Reich, merci. Vittorio, ce n'est peut-être pas la bonne terminologie, mais on parle des personnes qui se servent des services d'enregistrement fiduciaire et d'anonymisation parce qu'il y en a qui font des abus à partir de ces services. Vittorio, oui, c'est vrai, il y a un abus de ses droits, mais permettez-moi de finir. J'essaierai d'être bref. Si le problème est avoir un point de contact, il faudrait divulguer un moyen de contacter la personne, peut-être pas le numéro de téléphone, mais si quelqu'un commet un délit et qu'on va voir la police, il faut pas nommer quel est l'agent de policier qui nous a qui a travaillé avec nous pour pouvoir avoir accès à ces informations. Ce n'est pas pareil. Ça peut différer selon la région du monde où on habite. Donc, on ne veut pas qu'une personne d'une autre culture essaie de comprendre ce que je fais pour pouvoir me contrôler. Et qui c'est qui contacte l'agence ou l'autorité de protection de données de l'Italie? Je voudrais savoir pourquoi ils ne viennent pas. Ça va dépendre peut-être de qui est la personne de l'autre côté ou qui c'est qui les a contactés, mais on pourrait avoir différents acteurs qui participent, et j'ai occupé des postes différents dans ce domaine pendant 10 ans, et on me dit que c'est pas contraignant parce qu'on est simplement un organe consultatif et que c'est pour cela qu'ils ne viennent pas. Pourquoi devraient-ils passer du temps à l'ICANN? Ce n'est qu'une loi. Pourquoi devrait-on demander au gouvernement européen de se conformer à la loi de l'ICANN? C'est une question de souveraineté européenne. Holly Reich, oui, merci Vittorio. On a maintenant Stéphanie Perrin et puis un commentaire à distance et puis Carlton. Stéphanie Perrin, je voulais dire simplement que je soutiens fermement tout ce qu'a dit le dernier intervenant. Il y a une question fondamentale ici entre les droits fondamentaux et la liberté. Et Holly va m'interrompre si je commence à parler de la Constitution canadienne, mais je voulais répondre parce que j'ai travaillé moi-même dans le bureau d'un commissaire de protection de données du gouvernement canadien et dans un département qui travaille sur le secteur de la loi privée. Et c'est une lutte constante de demander au commissaire de protection de la loi de protection des données, d'assigner des ressources pour s'occuper de ces normes. Parce que les normes, en fait, devrait se conformer à la loi, et si on ne s'y conforme pas, donc on enfreint la loi, vous voyez. Ça pourrait être très douloureux de ne pas le faire. Et c'est une responsabilité, je pense, parce que j'ai parlé au nom de la personne qui était invitée à parler à l'ICANN à Vancouver, en décembre 2005. Il y a eu une participation des commissaires de protection de données sous l'article 29, dit une personne non identifiée. Stéphanie Perrin, mais si ce n'est pas des experts dans le domaine particulier, ils ne veulent pas s'unir à nous, on ne sait pas pourquoi, et ils ne veulent pas venir donner leur avis sur les principes juridiques dans un environnement où le jargon leur semble impossible. Donc je pense que c'est une possibilité si l'ICANN se montre comme une organisation ascendante, multipartite, consensuelle. Il faut qu'ils commencent à s'adapter et adapter leur langue pour que les différents acteurs de politique puissent s'intégrer à nos processus. Autrement, ce ne serait pas possible. Je ne pense pas que le SWG ait fait un bon travail dans son rapport. Le groupe de travail des experts, pardon. Holly Reich, James, vous avez 30 secondes depuis le participant à distance. Guy Slapp prend la parole. Je vous demande de dire vos noms au moment de parler pour la transcription et pour l'interprétation. C'est les gens qui sont dans les cabines qui ne voient pas vos noms. Ils ne savent pas qui c'est qui parle et ils ne peuvent pas dire aux personnes qui vous entendent dans les autres canaux qui c'est qui prend la parole. Ariel Liang prend la parole. Merci, Holly. On a une question des participants à distance. C'est Javier Rodriguez qui demande aux modérateurs ou aux autres à table. Je lis des critiques sur le groupe de travail d'experts sur Twitter qui ne permettent pas différents points de vue, etc. Pourriez-vous clarifier quelle serait la question ici? Le problème? Holly Reich, c'est une question du groupe de travail d'experts et on n'en est pas là. Donc on passe à James et puis à Carlton et il va présenter le groupe de travail d'experts. James, merci Carlton, merci Holly. Je voulais répondre à ce qu'ont dit quelques personnes qui venaient avant moi. Je voulais signaler que bien que l'anonymisation pourrait être un droit et la confidentialité serait un droit pour lequel on ne paierait pas normalement, L'entretien de cette anonymisation n'est pas un droit et ça a un coût que d'intervenir et de traiter ce genre de communication, de les filtrer, de les relayer et d'agir en tant qu'intermédiaire des communications qui peuvent arriver. Donc, je voulais que ce soit noté. On ne sent pas que ce n'est pas approprié de mettre un prix à ce service d'anonymisation en ligne. Ce n'est pas gratuit pour nous. Ce n'est pas donné. Donc, on sent que ce serait justifié que cela ait un prix. Merci. Merci, James et Holly. Maintenant, Carlton. On va parler brièvement sur le EWG, mais puisqu'on est en retard et qu'il n'y a personne ici, on pourrait continuer.
Merci, Holly. Carlton Samuels prend la parole. Je vais vous parler un petit peu du groupe de travail d'experts, ce qui va m'aider un petit peu à introduire le sujet. Pendant plus de 15 mois, nous avons et nous sommes réunis et nous avons travaillé à la demande du conseil d'administration de l'ICANN pour essayer de présenter une nouvelle base pour résoudre les problèmes d'enregistrement, de données d'enregistrement et de services de données d'enregistrement. Et donc, nous avons passé beaucoup de temps ensemble à réfléchir et nous avons développé ceci, c'est-à-dire notre rapport final que je vais vous présenter aujourd'hui. Bien, donc voilà ce que nous essayons d'aborder, hein, ce problème concernant les données d'enregistrement et le WHOIS. Essayer de voir si nous pouvons trouver une meilleure manière d'avancer dans ce sens. Notre idée était de commencer sur une base nouvelle, d'analyser le problème de manière générale, large, et d'essayer de voir si l'on pouvait trouver une proposition qui nous convienne à tous. Voilà, les membres de ce groupe de travail, les experts. Vous voyez que certains d'entre nous et qui appartenaient à l'autre groupe sont aussi là. Stéphanie Perrin, Michele, Neyland, Fabricio et Vaira, Michael Nabon, et moi-même, Steve Crocker, Lara Ayayi, Nora Nanayakara. Nous avons donc passé une quinzaine de mois à essayer d'arranger de trouver une solution pour ce problème. Donc, je vais vous parler un petit peu de la situation générale, hein, telle qu'elle était. Nous avons d'abord beaucoup lu de matériel pour en arriver là où nous en sommes, des heures, des milliers d'heures de recherche, 2600 pages de commentaires, de réponses, de résultats ont été lus. Nous avons eu 19 consultations de la communauté, 35 groupes, donc de réunion, 35 jours de réunion pour notre groupe de travail, 42 téléconférences. Michel et moi-même, nous avons travaillé avec, donc, nous avons fait plus de 200 appels en sous-équipe, hein, et nous avons eu des centaines, donc, d'appels de téléconférences dans ces sous-équipes, dans ces petites équipes, hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer l'effort que nous avons réalisé pour produire ce rapport. Et tous ces efforts, hein, pour répondre à une seule question, est-ce qu'il y a une alternative au système de WHOIS aujourd'hui, et tel qu'il est aujourd'hui, pour mieux servir la communauté d'Internet au niveau mondial. Voilà. Bien. Donc, nous avons pensé qu'il y avait une manière de répondre à ce besoin d'un nouveau WHOIS. Notre équipe a pensé que oui, c'était possible. Nous avons pensé que tous ceux qui ont travaillé à cette révision, hein, nous avons constaté que le modèle qui est ouvert à tous, avec toutes les données anonymes, contenait beaucoup de données inexactes et ne répondait pas donc aux besoins de la communauté. Par conséquent, nous avons élaboré ce rapport final. Il a été publié. Et dans ce rapport, nous avons dit qu'est-ce qui serait, à notre avis, qu'est-ce qui devait être, à notre avis, le RDS, c'est-à-dire l'annuaire de services d'enregistrement. Nous avons dû parvenir à un équilibre entre les principes, les besoins, les responsabilités, l'exactitude et l'accès, la transparence. On a pensé qu'il serait important pour nous de collecter et de valider et ces données d'enregistrement pour un objectif donc qui soit possible, qui puisse être autorisé. Nous avons pensé qu'il fallait une série de données minimales qui devaient être disponibles pour tout le monde. Et nous devions avoir des systèmes pour nous protéger, pour protéger ces données et surtout les données personnelles. Et ces données seraient révélées seulement pour des objectifs précis. On appelle cela des données protégées dans le sens qu'il faut faire une série de processus pour pouvoir accéder à ces données, au-delà donc de ces données, de ces blocages. On a donc pensé qu'on aurait besoin de deux séries de nouvelles parties contractantes. Il fallait valider les données de contact. Il fallait valider cela de manière officielle. Notre objectif était aussi d'améliorer l'exactitude des données d'enregistrement. Et ensuite, comme nous avions des données qui se trouvaient donc bloquées, il fallait avoir un système, un mécanisme d'accréditation. Par exemple, un terme de référence d'accréditation pour savoir qui aurait la possibilité d'accéder à ces données personnelles qui seraient donc bloquées. Bien. Donc, maintenant, nous n'allons pas rentrer plus dans le détail puisque certains de nos amis ici vont nous donner leur opinion. Et je vais commencer par Michele. Nous allons l'écouter. Michele, vous avez la parole. Merci beaucoup, Carlton. Michele Neylon, je vais vous donner mon opinion. Merci. Je vais vous donner mon impression. En tout cas, je dirais que comme Carlton l'a dit, et plusieurs d'entre nous vont vous le dire ici, les personnes qui appartiennent à ce groupe de travail d'experts, et vont vous le dire, ce rapport donc du groupe d'experts est un rapport très, très important et je vous recommande de le lire parce qu'il y a un problème, et c'est que c'est un rapport compliqué. Si vous prenez seulement des paragraphes, des phrases hors contexte, vous n'aurez pas une vision correcte de la chose. Donc, ça ne peut pas être lu comme ça. Il faut le lire dans sa totalité. Le type de problème que nous avons essayé d'aborder, et je ne sais pas si nous y sommes arrivés ou pas, mais bon, nous le saurons dans le futur, nous avons voulu essayer, donc nous sommes partis du problème que l'anonymisation est importante, la confidentialité est importante, et c'est un droit qui existe, qui est protégé par la loi, comme l'a dit le monsieur français. Il y a des différents problèmes concernant le contrat d'ICANN et la loi de protection de données en Europe et des demandes, donc le maintien de données pendant 2 ans et pour les titulaires de nom de domaine est trop long et donc cela ne correspond pas aux lois locales. C'est un problème. Donc, le groupe de travail d'experts a travaillé sur donc ce problème dans sa totalité depuis le début. Notre objectif était que ces données soient responsables. Oui, d'accord, mais dans certaines circonstances seulement et pas disponibles à tout le monde. On ne peut pas rentrer comme ça et dire « Ok, et je voudrais voir ces données. » La réalité, c'est que il ne s'agit pas de quelque chose qui va être résolu dans les années à venir. Si l'on regarde autour de nous, et moi j'ai une laptop, j'ai un téléphone portable, j'ai une série de gadgets que j'utilise dans ma vie quotidienne. et on a tous donc notre banque en ligne, on a des transactions en ligne, on interagit en ligne au quotidien et cela augmente et va aller en augmentation de plus en plus. Donc, d'accord, j'ai un intérêt dans tout cela, j'ai un business dans ce secteur, hein, et, mais pas aussi important que GoDaddy, mais je dois gagner ma vie. Hein. Donc, le système qui a été mis en place à l'origine a évolué dans le temps. Il a été utilisé ces jours-ci par des organisations de toute taille, de tout type, pour différentes utilisations. Et ce qui existait ne va plus, ne fonctionne plus, n'est plus adapté, comme James l'a dit. Hein, beaucoup de gens qui viennent à ICANN pour la première fois disent « on peut résoudre, on peut arranger cela ». Je me souviens lors de la première réunion de l'ICANN à laquelle j'ai participé, c'était à Lisbonne, en 2007. C'était un bel endroit d'ailleurs. La première fois que j'ai dit quelque chose dans une réunion de l'ICANN, hein, ça a fait sauter le personnel de l'ICANN. Hein. Bien, et j'ai été et je suis rentrée dans ce cercle depuis, dans cette espèce de cercle vicieux depuis. Et donc notre objectif de résoudre le problème, de résoudre les problèmes qui existent. La réalité, c'est que ça n'a jamais vraiment marché, ce WHOIS. Ce WHOIS, c'est vraiment un petit peu essayer de mettre un pansement sur un bras cassé. Hein. C'est pas possible de on pouvait pas le réparer comme ça. Donc lorsqu'on a commencé à travailler, hein, il y a 16 mois avec Carlton, hein, on a commencé à Et il y a eu un tas de choses qui se sont passées pendant ces 16 mois de travail. Hein. Et en tout cas, nous avons passé beaucoup de temps à travailler là-dessus. Si j'avais été mariée, je serais probablement divorcée depuis. Et la réalité, c'est que le système existait, il ne fonctionnait pas correctement. Et donc, nous avons voulu trouver une autre manière de gérer les données pour donner un accès aux gens, une protection. Et il fallait concevoir ce système. Hein. Donc, ce que nous avons proposé, c'est un énorme rapport. Hein. Je ne vais pas essayer de vous dire hein, que vous ne nous avez pas bien compris, hein, que c'est quelque chose de simple. Non, je ne vais pas vous dire cela. C'est un énorme rapport. C'est un thème qui est très compliqué. C'est une question très complexe, mais j'espère que nous avons un rapport qui va satisfaire plus ou moins tout le monde ou ne pas trop déplaire à tout le monde selon la façon dont on voit les choses. En tout cas, si l'on regarde hein, les forces et les faiblesses du système précédent, hein, voilà, vous avez la diapo ici. Nous avons un tableau sur lequel nous avons examiné les différents éléments. On a examiné la façon d'accéder aux données, les différentes situations qui existaient. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien compris un principe de base qui est que nous ne disons pas que l'accès public aux données va disparaître. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous n'avons jamais dit cela. Hein. Il y a ici un problème de compréhension. Hein. Ces données qui vont être bloquées hein, ne vont pas être bloquées pour tout le monde. On pourra y accéder, hein, mais de façon contrôlée, ce qui veut dire que vous allez peut-être perdre un certain degré d'anonymat ou d'anonymisation hein, pour ceux qui travaillent dans le domaine des données depuis longtemps. Hein. Qu'est-ce que vous préférez? Un service qui fonctionne et dans lequel vous pouvez avoir confiance ou un service qui tombe en panne tout le temps hein. Donc, il y a ici beaucoup de différences. Hein. Je pense que les bureaux d'enregistrement et les registres avaient donc des idées, une certaine idée de ce type de problème. Il y a eu des abus de système actuellement. Il y a des compagnies, des entités qui essayent donc de présenter des données fausses. Hein. Il y a des gens qui donnent des données fausses au système par erreur. Ici, vous voyez qu'il y a une série de couches hein, de protection et nous espérons que cela va encourager les gens à nous fournir des données plus exactes en général hein, et éviter ce type de problème de données inexactes. Carlton, je vous rends la parole. Allez-y. Carlton Samuel reprend la parole. Merci, Michele. Je vais prendre un commentaire. Ici, il y a un commentaire public. Et ensuite, je demanderai à Stéphanie de prendre la parole. Et ensuite, nous ferons le tour de la table. Cathy. Donc, Ariel Lyons, il y a un commentaire, une question d'un participant à distance qui dit que je suis surpris de voir qu'il n'y a pas de réaction dans la salle aux commentaires de Godadi. La confidentialité peut être un droit, mais le maintenir n'est pas un droit. Comment est-ce qu'on peut avoir une chose sans avoir l'autre, dit ce participant. Pour un peu plus de clarté, hein, dit Michele Nylon, j'ai dit que l'accès à ces données n'allait pas être libre. Hein. Oui, j'espère que, dit Samuel Carlton Samuels, reprend la parole. J'espère que nous allons pouvoir, cette réponse a satisfait ce participant. Nous allons donner la parole à Stéphanie ici, qui va nous faire un commentaire. Ensuite, Cathy, Garth et Neil feront leurs commentaires. Bien. S'il vous plaît, une minute. Bien. Stéphanie Perrin prend la parole. Je suis sûre que Neil aura d'autres choses à dire lorsque j'aurai fini de faire ma propre contribution. Je pense que je vais commencer par répondre. Combien j'ai de minutes, Carlton? 10 minutes. Bien, très bien. Bon, vous m'avertissez. La première chose, c'est je voudrais répondre au tweet que nous avons reçu de l'extérieur de la salle concernant les désaccords. Nous avons eu une réunion, comme tous les groupes de travail, une réunion très enflammée, comme tous les groupes de travail lorsqu'il faut rédiger un rapport. Ma vie était compliquée parce qu'en plus, j'ai eu un problème d'Internet et donc... Et au Canada, et c'est aussi, on a ce type de problème. Donc, je me suis retrouvée une semaine et demie sans Internet. Il a fallu que j'aille voir mes voisins ou que j'aille ailleurs pour trouver donc signal d'Internet parce que je n'avais plus d'Internet à l'endroit où j'habite. Donc, en tout cas, on avait des problèmes de délai et finalement, j'ai dit, il faut que je dise que je ne suis pas d'accord. Et je ne savais pas comment le faire. Il y a des gens qui pourront dire et ça peut arriver et ça ne devait pas arriver. Et ce désaccord a surgi au niveau du rapport final. À mon avis, l'équilibre n'était pas entre le maintien de l'ordre ou les forces de l'ordre et la question de la transparence n'était pas l'équilibre n'était pas bon. Donc, j'ai dû dire que je n'étais pas d'accord, même si c'était 2 minutes avant le délai avant la remise de notre rapport. La détermination du groupe a été que c'était trop qu'on ne pouvait pas inclure cela dans le rapport, que ce que je proposais ne pouvait pas être inclus dans le rapport. Donc, à ce point-là, j'ai dit OK. Qu'est-ce que je fais alors? Et Milton Miller, qui est dans le groupe de NCSG, a proposé, et il devait partir à Berlin, donc je n'ai pas pu le joindre. Et donc, c'était cette personne que je devais joindre, je n'ai pas pu le joindre. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le premier accord se trouve sur son blog actuellement. J'ai reçu une série de commentaires sur la façon dont j'ai pas bien compris le rapport. Et donc, j'ai lu le rapport, j'ai une nouvelle version avec une version à laquelle je vais ajouter certaines choses que je vais publier sur mon propre blog. Et j'ai enregistré mon propre nom sur GoDaddy et j'avance. Je suis en train d'évoluer dans cette création de mon domaine. J'avance. En tout cas, je dois dire que le fait d'enregistrer ce domaine par un service d'enregistrement fiduciaire n'a pas été gratuit, mais a été facile. On dit que c'est gratuit, ce n'est pas gratuit. Non. Mais en tout cas, ça a marché. Donc, j'ai fait un blog. Je suis en train de faire un blog. Je ne sais pas ce que le groupe de travail d'experts va faire avec mes commentaires. En ce qui en tout cas, et de leur point de vue, j'ai reçu des critiques, mais je continue à avancer. Si vous regardez ce rapport, c'est comme il est très complexe. Il faut avancer, repartir en arrière, lire cela, revenir sur d'autres décisions, sur d'autres clauses pour voir comment ça fonctionne. Hein. Et ce n'est pas une critique du groupe de travail d'experts pour ou du rédacteur de ce rapport, hein, qui ont fait du très, très bon travail, il faut le dire, hein, pour reconstruire ce puzzle. C'est une critique de ce qu'est le système WHOIS, du problème de WHOIS, qui est très complexe. Et c'est très difficile de reconstruire donc, tous ces morceaux ensemble. Hein. Donc, on a essayé de faire un équilibre, mais tout ce que moi je dis, en tout cas, c'est que il n'y a pas vraiment un équilibre. Hein. On a trop de déséquilibre au niveau de la transparence. Je vais rentrer un peu plus dans le détail et vous expliquer pourquoi je dis cela. La principale objection que j'ai est le fait que nous avons un bon matériel, hein, dans le domaine de la confidentialité. Le blocage est une amélioration de ce WHOIS ouvert, hein, mais il y a aussi beaucoup de validations de données qui sont en jeu ici. Hein. Donc, certaines données ne vont pas être là. Hein. Vous n'aurez pas votre enregistrement parce qu'il y a des recommandations de validation obligatoires. Donc, le prix pour avoir des bonnes données de validation sera, hein, une donc confidentialité effective. Mais comme nous le savons, en tout cas, peut-être que nous ne le savons pas, mais je vais le dire et les gens peuvent me répondre, même de mon point de vue. Hein, j'ai travaillé dans le domaine de la vie privée pendant une trentaine d'années. Je connais les différents aspects. J'ai travaillé dans le gouvernement. J'ai travaillé dans le secteur privé pour la mise en œuvre donc de la question de vie privée. J'ai travaillé dans le secteur de la recherche. Hein, et j'ai travaillé dans de nombreux groupes de travail de commissionnaires sur la vie privée. Et je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je m'y connais pas mal et je dois dire que ICANN n'est pas le meilleur endroit pour l'application des lois de protection de la vie privée. Le RA 2013 n'est pas vraiment la façon dont on va pouvoir imposer ou faire respecter ces données de protection de la vie privée. Donc, nous n'avons pas à ICANN une politique générale pour la vie privée, la protection de la vie privée, ce que je trouve choquant pour une organisation de multipartite qui fonctionne dans de nombreuses juridictions, et y compris la loi. Et donc, je pense que, en général, ce qui gouverne l'accumulation actuelle de données qui devrait être sujet à la loi de protection de données n'est pas ici. Si l'on regarde dans le WHOIS et si l'on veut, hein, dans le domaine de l'accord d'accréditation 2013, hein, si l'on veut voir ce qui est couvert, en général, cela est couvert par la loi de la vie privée, mais si l'on veut construire selon ce rapport, hein, une politique de protection de la vie privée, je dirais qu'ICANN devrait d'abord faire des recherches concernant la création d'une politique. Et on parle de créer une base, hein, qui pourrait être appliquée dans le domaine de la protection contractuelle. On ne parle pas nécessairement de ce qui serait une étape logique, hein, pour... En tout cas, c'est un combat que j'ai perdu. Je pense que maintenant qu'on a parlé de tout cela, je vais avancer. Je vais vous dire en quoi je ne suis pas d'accord avec ce rapport. Le point principal sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est la partie du consensus. Il y a une clause ici qui concerne les contacts de base qui dit que le bureau d'enregistrement doit donner une opportunité aux individus de dire qu'ils ne sont pas d'accord en ce qui concerne la fourniture de leurs informations personnelles pour leur base de contact personnel. Donc, avec le nouveau système de base de contact, un pour le secteur légal, un pour le secteur technique, il y a un total de 6 secteurs, il me semble. En tout cas, si vous ne nommez pas quelqu'un qui va vous représenter, et ou bien si vous ne prenez pas un service d'enregistrement fiduciaire, vous devez fournir vos propres informations. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a une certaine confusion en ce qui concerne les données qui sont à l'extérieur de ce blocage et les données qui ne sont pas à l'extérieur de ce blocage. À mon avis, il y a une contradiction. On m'a dit que je n'avais pas bien lu les choses, mais à mon avis, tout cela se trouve bloqué. Il faut être authentifié. Certains parlent de publié et de public. Et obligatoire, données obligatoires. J'attends la version finale. Je vous montrerai ensuite la terminologie, mais à mon avis, on a parlé de données publiées. Donc, à moins qu'on ait quelqu'un d'autre qui nous propose un autre instrument et qui nous dise cela est derrière la porte de blocage, il va être difficile d'argumenter pour un PDP. Donc, voilà, on a essayé d'éclaircir un petit peu tout ça. Je pense qu'une formulation un peu plus claire aurait aidé ce rapport. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un problème, un premier problème. Est-ce que cela est à l'extérieur du blocage ou est-ce que cela est à l'intérieur du blocage? Ensuite, ce qu'il faut faire pour être accrédité. Là, il y a un nouveau problème. La clause de consensus dit que si on n'accepte pas l'utilisation de nos données, de ces données de contact pour un objectif donc autorisable, on va donner une opportunité de revenir au niveau de l'enregistrement. Si on parle donc des droits, de nouveau, pour en revenir à cette discussion concernant les droits, cela ne correspond pas à la protection des droits privés. Il s'agit d'un droit constitutionnel. Donc, c'est un accord contractuel. C'est un gros, gros problème. Si, pour avoir un nom de domaine, je dois faire cela, je dois avoir un service d'enregistrement fiduciaire payé, j'ai un problème du point de vue des personnes, des experts qui n'appartiennent pas à ICANN. Je m'y connais pas mal dans ce que fait ICANN. Je ne suis pas dans une position dans laquelle je peux dire que l'accès aux services proxy est le même dans le nord et dans le sud. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si nous avons les données qui nous permettent de soutenir tout ce système. Probablement, GoDaddy va nous dire, nous existons au niveau global, nous existons au niveau international. Mais est-ce que c'est vrai qu'en Zambie, par exemple, je peux acheter ce type de service d'enregistrement fiduciaire? J'aimerais qu'on me réponde, j'aimerais qu'on m'indique si c'est le cas. En tout cas, en ce qui concerne tous ces désaccords, tous mes désaccords, je ne dis pas que je suis une experte dans le domaine d'ICANN. C'est un secteur, c'est un monde compliqué et la question du who is est très compliquée. Si j'ai tort, dites-le-moi, expliquez-moi pourquoi. Il y a des gens qui m'ont dit que dans certaines pages, je n'avais pas fait la bonne lecture, mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a des problèmes, qu'il y a des conflits, qu'il y a des problèmes de compréhension. Voilà, je crois que j'ai fini et s'il y a des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci, Stéphanie. Carlton Samuel prend la parole. Nous devons maintenant, nous avons 15 minutes. Cathy, vous avez la parole. Donc, Cathy Kleinman prend la parole. Merci. Je vous demande de prendre la parole et de ne pas parler trop vite, dit Gessela. Merci. Et Cathy Kleinman reprend la parole. Je vais reprendre un petit peu ce que Stéphanie, McKelly et Carlton ont dit. D'abord, merci pour les gros efforts que vous avez consacrés à ce travail, au travail de ce groupe de travail d'experts. L'équipe de révision du WHOIS a fait de gros, gros efforts. C'est un travail très difficile, il faut le reconnaître. D'abord, je voudrais faire deux commentaires rapides. Ensuite, vous parler un petit peu du groupe de travail d'experts et de son rapport. Et je vais essayer de vous aider un petit peu avec ces commentaires. D'abord, le problème de la confidentialité. Aux États-Unis, vous payez pour cette confidentialité. Il y a un précédent qui existe dans ce domaine. Pour l'histoire, en ce qui concerne vos désaccords, et Nous avons une longue histoire au niveau d'ICANN. On publie tout cela. Les désaccords sont publiés avec le rapport. C'est surprenant pour beaucoup d'entre nous qui ont participé à ce type de procédure. Et nous voulons que les désaccords, que les critiques de ce rapport soient publiées. C'est une bonne chose. Nous sommes tout à fait d'accord avec cela. Ensuite, il s'agit d'un rapport qui a été donc publié, un rapport de 84 pages, et ensuite le double, un rapport du double, le rapport final. Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre ces deux rapports. C'est compliqué à lire. Il faut le lire avec beaucoup de soin et d'attention. Il y a des changements qui ont eu lieu. Moi, quand je lis cela, j'avoue que j'ai du mal. Il y a des moments que je ne comprends pas très bien, où je ne comprends pas très bien ce qui est à l'intérieur du blocage et ce qui est à l'extérieur du blocage. J'ai du mal à comprendre. Il y a des erreurs, par exemple, en ce qui concerne la question de l'affaire Snowden. Je ne comprends pas très bien comment changer le WHOIS. Lorsque je parle aux personnes qui travaillaient auparavant avec le système WHOIS, on avait une autre orientation. Maintenant, il s'agit d'un annuaire de coordonnées et d'un système d'annuaire d'enregistrement des données de données d'enregistrement pour tout le monde, pour les gens, pour les particuliers, pour les petites compagnies, pour les grandes compagnies, les grandes organisations, et qui ont l'impression qu'ils ne sont pas bien protégés, qu'ils ne sont plus protégés. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Carlton Samuel, nous avons une question à distance à laquelle on va répondre avant de passer la parole à Neil. Ariel prend la parole. Il s'agit d'un commentaire, d'une remarque au commentaire de Godadi. Merci pour l'éclaircissement. De nouveau, c'est un exemple de l'intérêt des industries qui ignorent les droits fondamentaux. La confidentialité et la protection des données, ce sont des droits fondamentaux qui sont garantis par les constitutions, la loi, de manière universelle. Donc, si je veux une protection de ces droits, je dois payer secteur, je dois payer quelque chose, et cela devrait être, cette protection de données doit être garantie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage, si j'ai pas bien compris votre déclaration? Merci, Ariel, dit Carlton Samuels. Nous aurons probablement la possibilité de vous donner cette explication. Nous avons très peu de temps. Il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre la parole.
Lee Schwarzman qui prend la parole. Je voudrais savoir un peu plus sur cette question de prolétariat, mais on y reviendra plus tard sans doute. En fait, on peut pas conduire une voiture, ouvrir un compte à la banque, même louer ou faire une réservation dans un hôtel sans donner votre identité. Pour avoir un nom de domaine et pour l'enregistrer, vous êtes responsable de divulguer ces données. Vous pouvez engager un service d'enregistrement fiduciaire pour vous protéger si vous faites des choses un peu plus confidentielles. Mais comme tout le monde sait, dans ce monde postmoderne, si on se sert simplement d'un service d'enregistrement fiduciaire, d'un nom de domaine pour se protéger de l'application et du pouvoir des gouvernements, ça ne va pas marcher. J'ai 5 manières d'identifier des personnes sans avoir à accéder à ces données. Donc, si vous croyez qu'il s'agit d'une protection de données énorme pour le titulaire du nom de domaine, vous êtes trompé. Michaela Nayland, encore une fois, je ne suis pas un policier. Non, pardon, c'est une personne non identifiée qui parle. Vous demandez si on veut accéder à un système fiable, solide. Bien sûr, c'est raisonnable de vouloir cela. Pour l'accès professionnel, pour les chercheurs individuels ou pour les chercheurs professionnels, tout à fait, sans doute, si c'est un système fiable par lequel on peut faire des recherches. La protection et qui protège en même temps l'identité des personnes, je suis d'accord. Carlton Samuels, merci Neil. Garth Brown. J'aime bien cette idée d'avoir un accès fermé. Je n'aime pas l'idée de devoir accepter que, étant donné que les données ont été validées, tout va bien marcher. Et c'est bon, ça y est, elles sont validées, mais je ne peux pas les voir. Il faut faire confiance à la personne qui l'a validée. Ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. On a deux populations qui ne sont pas compatibles. On a des titulaires de nom de domaine individuels. Et on parle des entités commerciales illégitimes ici. Et l'idée qui nous préoccupe, moi, Neil, d'autres, et qu'on va devoir faire face à ces entités commerciales de façon continue, on va devoir demander une autorisation pour savoir de qui il s'agit. Et ce qui me préoccupe ici est qu'une grande partie de ce débat est en fait générée par l'ICANN qui ne s'est pas occupée de ces aspects pendant des années, qui n'a pas créé des règles. Et on a des entités commerciales et des représentants des consommateurs qui sont ici dans cette salle. Et la CAN n'est pas ici, ne participe pas. Et ça me gêne. Merci. Carlton Samuels, merci Garth. On a Michele. Et puis, un commentaire à distance aussi va. Personne qui ne donne pas la parole. Brièvement, le WG aura un nombre de sessions cette semaine, parmi lesquelles certaines vont être du type présentation. C'est Michele Nylon qui parle. Elles sont lentes et douloureuses, comme on dit. On sait que vous allez nous adorer. Venez nous voir. Mais toutes les séances qu'on a organisées pendant la semaine, et presque tous les membres du groupe de travail d'experts sont ici présents à Londres. Dans une salle sans fenêtre, on s'est réunis à Buenos Aires, à Singapour, à Londres. Donc je m'excuse de ne plus savoir où je suis. C'est à chaque fois pareil, on n'a jamais de fenêtre. Mais je vous demanderai de venir nous voir, posez-nous des questions, demandez-nous de vous expliquer les fondements de pourquoi les choses sont comme elles sont. Par rapport à certains commentaires qui ont été faits, pourquoi un tel groupe ne participe pas ici, par exemple. Dans le rapport, on a dit, on a trouvé différents cas d'utilisation potentielle, différents groupes, différents propos. On ne pouvait pas penser à tout. Et on n'a pas dit qu'on avait mentionné tout le monde. C'était clair que ce n'était que des exemples, qu'il y avait des propos qui ne nous était pas venu à l'esprit. Et pour revenir à ce qu'a dit Cathy, je suis d'accord. Je suis toujours d'accord avec Cathy. Et je suis souvent en désaccord aussi, d'ailleurs. Mais bien qu'on n'aime peut-être pas l'utilisation faite du WIS, on ne peut pas nous ignorer. Et c'est ça le vrai problème. Je n'aime pas la façon dont les personnes se servent du WIS aujourd'hui. Il me semble ridicule, déraisonnable, mais c'est la réalité, je ne peux pas ignorer cela. Carlton Samuels, merci. Michele. Siva Subramanian de l'Inde, je suis dans la salle en fait, je ne suis pas à distance. On a parlé d'accès aux données et on se demande qui a accès aux données, comment, une fois que les données ont été recueillies. Mais pendant le processus de la collecte des données, le nom de domaine utilise des critères qui pourraient avoir différentes règles. Et si les règles établies ici ne sont pas connues, et si le revendeur veut demander des données qu'il ne devrait pas demander, s'il a plus de données que requis, le titulaire du nom de domaine lui donnerait ces données sans savoir que ce n'est pas une exigence. Et si on lui demande son numéro de passeport, par exemple, quelles seraient les gardes qu'il aurait? Par exemple, le système bancaire comme VeriSign devrait leur donner des protections. VeriSign n'est pas un registre, mais c'est un service de sécurité et d'authentification. Et donc, les données ne sont pas collectées à ce point-là par le revendeur, mais vont directement à la banque. Et si nécessaire, il va pouvoir contacter quelqu'un sur le système de la banque. Serait-ce possible ou avez-vous prévu un système de recueil ou de collecte de données normalisées, centrale, entre tous les revendeurs? Carlton Samuels, merci Siva. On n'a plus le temps. Stéphanie, vous avez une minute pour répondre. Stéphanie Perrin, merci. Vous avez transmis mon commentaire préliminaire dans le sens que nous devons travailler d'abord sur une politique d'anonymisation. C'est le premier pas. Si on avait une telle politique à l'ICANN, on pourrait stipuler quelles seraient les données à collecter et à quelle fin. Et donc cela nous aiderait à continuer à avancer avec le système. On devrait pouvoir faire confiance à la loi locale, mais on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas quelle est la juridiction du revendeur à chaque fois. Il va devoir s'adapter aux lois locales. Peut-être qu'en Allemagne, ce serait permis, mais pas dans un autre. Donc voilà pourquoi l'ICANN a le devoir de créer une politique d'anonymisation qui normalise les lois de protection de données disponibles. Et les lois de protection des sociétés s'occupent de l'ICANN comme d'une agence de protection, ce qui n'est pas correct. Et cela a un effet sur les autres parties de l'écosystème. Carlton Samuels, merci. Mickaël avait un commentaire. Oui, Mickaël Nalen. Ce que Stéphanie dit est bien sûr correct, mais la réalité est que en tant que minoritaire, un vendeur minoritaire dans n'importe quel pays, on demande des informations qui sont indépendantes de ce que vous faites avec votre enregistrement. Donc, la règle serait que j'aurai accès à d'autres données. Et la question que vous, votre remarque, en tout cas, est très, très valide. Et si l'entité est en fait une personne qui demande des données qui n'ont aucun sens, on sait que ça arrive. Et je n'ai pas une réponse pour vous. Je suggérerais, je recommanderais que l'on éduque les personnes, qu'on leur fasse savoir si un bureau d'enregistrement ou un autre nous demande de savoir quel est notre type de sang pour enregistrer un nom de domaine, ce ne serait pas approprié. Franchement, ce ne serait pas approprié, pas du tout. Mais si on vous demande un numéro de passeport ou une copie du passeport, peut-être que vous n'aimeriez pas cela, mais on le fait des fois lorsqu'on vérifie la fraude. Il y a des sociétés qui le font, les gens le font de différentes manières. Donc c'est une question de vous éduquer. Il faut faire attention. Est-ce qu'ils ont des coordonnées sur le site web? Est-ce qu'il y a une adresse sur le site web? Une fois, on avait un client qui vivait un crochet à 50 kilomètres de je ne sais plus où, il n'y avait rien autour. Et donc, c'est une question d'éducation et de sens. C'est ce qu'on fait. Je ne sais pas ce que fait l'anglais, c'est au-delà de cela. Carlton Samuels, merci Mickaël. Il faut qu'on conclue ici. J'ai quelques remarques finales. Le rapport du groupe de travail d'experts est disponible, comme vous savez. Vous pouvez voir les remarques principales. Et on a deux séances publiques, trois en fait, de 15h50 jusqu'à 16h30 cet après-midi. Et puis on a une autre de 17h à 19h. Et jeudi, on a une séance de 8h à 10h. Donc venez nous voir, venez à la salle. On va répondre à vos questions, ou essayer de le faire en tout cas. On remercie tous d'être venus au nom de mon co-président. et en mon propre nom et en nom de Holly. On remercie les interprètes aussi qui nous ont donné leur soutien. Merci aux participants à distance. Nous voilà à la fin de la séance. Merci.